Reçois le Seigneur. Amen. Je suis très content de vous voir si nombreux pour ce deuxième message, cette seconde session de la formation. Reçois le Seigneur. Hier, nous avons écouté un merveilleux message qui nous disait que nous devons être stimulés dans notre esprit pour le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu. Ce message a réveillé mon esprit et je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais j'espère que cela a été le cas également. Aujourd'hui, nous commencerons avec des cantiques. Dans Éphésiens 5, 18, il est dit que l'une des manières par laquelle nous pouvons être remplis, c'est en chantant les uns aux autres avec des psaumes et des cantiques. Nous commencerons donc dans quelques instants par des cantiques. Et nous espérons que vous serez tous stimulés dans votre esprit pour aimer le Seigneur, pour chanter au Seigneur avec ceux qui sont avec vous. Nous encourageons tous ceux qui visionnent ensemble de chanter ensemble. Si vous êtes seul, vous pouvez également chanter avec ceux qui chantent en ligne. Mais quel que soit ce que vous faites, chantez au Seigneur pour être rempli en esprit, exercez votre esprit. Amen. Nous passons la parole aux frères et sœurs à Boston. Amen. Oh, salut à tout le monde. C'est merveilleux d'être avec vous cet après-midi ou ce soir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Nous sommes ici un groupe à Boston, dans la grande zone de Boston. Et nous sommes tellement contents de pouvoir chanter. J'espère que vous vous êtes réjouis de la formation jusqu'ici, que ce soit dans les partages, les petits groupes, les cantiques. Nous chanterons davantage, espérant que cela va nous aider à nous élever et à être édifiés cette semaine. Nous allons chanter ce notre premier cantique. Je suis heureux avec mon Père si cher. C'est le chant numéro 4. Je suis si heureux avec mon cher Père, perdu près de lui maintenant. D'abord son sourire, puis son étreinte. Sa grâce m'étonne à nouveau. Le refrain, j'étais perdu, je suis retrouvé. J'étais mort, maintenant je vis. Viens et sois joyeux, réjouissons-nous. Retournez chez Père à nouveau. Robe, anneau, souliers, ma fin s'en alla. C'est la deuxième strophe. À ma position à nouveau, car il m'a vêtu totalement, puis il m'a rétabli à fond. Maintenant, et dans la famille à nouveau. Le refrain. J'étais perdu, je suis retrouvé. J'étais mort, maintenant je vis. Viens et sois joyeux, réjouissons-nous. Retournez chez le Père à nouveau. On recommence. Je suis si heureux avec mon cher Père. Perdu près de lui maintenant, d'abord son sourire, puis son étreinte. Sa grâce m'étonne à nouveau. Le refrain, j'étais perdu, je suis retrouvé. J'étais mort, maintenant je vis. Viens et sois joyeux, réjouissons-nous. Retournez chez le Père à nouveau. Et la strophe 2, robe, anneau, souliers, ma fin s'en alla. À ma position à nouveau, car il m'a vêtu totalement, puis il m'a rétabli à fond. Maintenant et dans la famille à nouveau. Le refrain, j'étais perdu et je suis retrouvé. J'étais mort, maintenant je vis. Viens et sois heureux, sois joyeux. Réjouissons-nous, retournez chez le Père à nouveau. David était perdu, il est retrouvé. David était mort, maintenant il vit.
Viens, sois joyeux, réjouissons-nous. Il est retourné chez le Père à nouveau. J'étais perdu, je suis retrouvé. J'étais mort et maintenant je vis. Viens et sois joyeux, réjouissons-nous. Retournez chez le Père à nouveau. Alléluia. Je suis très content. Je suis retrouvé. Je suis vivant. Nous sommes retournés dans la maison du Père. Il n'y a pas un meilleur endroit où nous pouvons être. Nous étions tous perdus, mais nous avons été retrouvés. Merci Seigneur, nous avons été retrouvés. Nous sommes vivants. Cela veut dire que Dieu est en nous. Nous sentons, nous nous réjouissons et Dieu se répand en nous. Nous connaissons probablement ce prochain cantique, Dieu se répand dans mon être. Si vous le connaissez, chantez-le ensemble avec nous. Nous allons le chanter à plusieurs reprises. Sentez-vous libre de vous réjouir ensemble avec nous. Et nous souhaitons tous que Dieu se répande dans notre être un peu plus. Ok, le cantique n'est pas dans la liste, donc je vais essayer d'interpréter les paroles. Dieu se répand dans mon être. En tant que l'Esprit, il me remplit. Depuis mon esprit jusqu'à mon âme et jusqu'à mon corps, je suis rendu complet, sanctifié en Christ, préservé complet. Et le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Et que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés, complets, sans tâche, soient préservés, complets, sans tâche, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se répand dans mon être, en tant que l'Esprit qui me remplit. Depuis mon esprit jusqu'à mon âme et puis à mon corps, je suis entièrement sanctifié en Christ, préservé, complet. Et le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, sans tâche. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie et vous préserve sans tâche jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés complets, sans aucune tâche, sans aucun défaut, soient préservés complets, sans aucun défaut, jusqu'au retour de notre Seigneur. De notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se répand dans mon être. Il se répand dans mon être, loué soit le Seigneur, en tant que l'Esprit qui me remplit. Oh, depuis mon esprit jusqu'à mon être, jusqu'à mon âme, et même à mon corps, je suis préservé, je suis sanctifié en Christ, préservé complet. Dieu se répand, il se répand dans mon être. Amen Seigneur, en tant que l'Esprit qui me remplit, depuis mon esprit jusqu'à mon âme et jusqu'à mon corps, je suis entièrement sanctifié en Christ, préservé complet en lui. Loué soit le Seigneur. Dieu se répand depuis mon être. Il se répand dans notre être. Alléluia. Et nous remplit depuis mon esprit jusqu'à mon âme, jusqu'à mon corps. Nous sommes entièrement sanctifiés en Christ, préservés complets. Alors c'est ça la véritable édification. Dieu se répand en nous. De cette façon, nous pouvons nous lever pendant que nous chantons. Dieu se répand. Il nous donne la vie, il nous encourage à poursuivre, à être édifiés. Ce dernier cantique vient de l'expérience de David et la manière dont il voulait se lever pour bâtir. Mais il ne voulait pas simplement se focaliser sur lui-même. Il voulait se focaliser, se centrer sur le cœur du Seigneur. Nous pouvons boire peut-être un verre, souffler un peu et puis chanter ce cantique au Seigneur. Je pense que c'est quelque chose de précieux. J'espère que à partir de maintenant, nous allons chanter ensemble et chanter de notre cœur. Il s'agit du cantique numéro 5 dans la liste des cantiques donnée en annexe. Je vais lire les paroles interprétées. Non, je n'entrerai pas dans la tente où je réside. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai de repos à mes yeux pour mon Dieu jusqu'à ce que je trouve un lieu où il puisse habiter. Strophe 2. Combien l'aveuglement nous emporte et nous égare. Jamais ne nous souciant de l'Église, sa demeure. Jamais nous ne redirons plus, le temps n'est pas venu. Nous monterons, nous bâtirons. Nous bâtirons la maison du Seigneur. Strophe 3 maintenant. Comme au temps de David, ô Seigneur, convainc des hommes. En eux, mets le désir en nous, Seigneur, d'accomplir ton plan sur terre. Oh oui, Seigneur. Seigneur, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons, Seigneur, de venir pour bâtir. Oh Seigneur, pour bâtir. C'est ton désir, notre désir également, Seigneur. Oui, nous venons, Seigneur. Strophe numéro 4. Seigneur, mets dans le cœur de tous ceux que tu appelles. Mets dans le cœur, Seigneur, mets dans notre cœur la vraie consécration. Oui, mets dans nos cœurs la vraie consécration qui pourra ton but atteindre, Seigneur. Alléluia. L'enfer ne pourra prévaloir. L'enfer ne pourra prévaloir. L'Église est édifiée. Alléluia. L'heure est venue. Grandis en nous, Seigneur. Ensemble, bâtis-nous, Seigneur. L'enfer ne pourra prévaloir. L'enfer ne pourra prévaloir. L'Église est édifiée. L'heure est venue. L'heure est venue, Seigneur. Grandis en nous, ensemble, bâtis-nous. Nous pouvons chanter la strophe 3 et 4 une autre fois, une fois de plus. Après, nous pouvons prier devant le Seigneur. Comme au temps de David, ô Seigneur, convainc des hommes. Nous prions ces lignes, chers frères. En eux, mets le désir en eux d'accomplir ton plan sur la terre. Oui, Seigneur. Seigneur, nous nous réjouissons de venir pour bâtir, Seigneur. C'est ton désir, notre désir, Seigneur. Oui, oui, Seigneur, nous venons, Seigneur. Strophe 4. Seigneur, mets dans le cœur, oh, mets dans nos cœurs, Seigneur, de tous ceux que tu appelles. Mets dans notre cœur la vraie consécration. Oui, Seigneur, la consécration qui pourra ton but atteindre. L'enfer ne pourra prévaloir. Oui, l'enfer ne prévaudra point, Seigneur, car l'Église est édifiée. Alléluia. L'heure est venue. Grandis en nous, Seigneur. Ensemble, Seigneur, bâtis-nous. Bâtis-nous ensemble, Seigneur. L'enfer ne pourra prévaloir. L'enfer ne prévaudra point. L'Église est édifiée. Oui, l'heure est venue. Grandis en nous, Seigneur. Ensemble, bâtis-nous. Oh, Amen. Oh, Seigneur, édifie-toi en nous. Oh, prépare-nous pendant ces temps, Seigneur. C'est merveilleux. J'espère que nous garderons ces cantiques dans notre cœur durant toute la formation. Maintenant, nous allons retourner la parole, le podium. Le Seigneur, que le Seigneur œuvre en nous afin que nous puissions écouter ce qu'il voudrait nous dire. Amen. Amen. Oh, quel merveilleux cantique spécial. Oh, Seigneur, pendant ces jours, inspire-nous afin que nous puissions bâtir ta maison comme au jour de David. Un reste, Seigneur, qui sont désireux. Amen. Avant de continuer pour aller vers le message, nous aimerons encourager tout le monde à allumer les caméras. Nous voulons voir les visages des saints, c'est encourageant. Partout où vous vous trouvez, c'est encourageant pour moi et pour les frères, le frère même qui parle. Et j'aimerais également vous encourager à prendre des notes pendant que le message est donné. Hier, il y a beaucoup de points merveilleux qui ont été libérés, des versets mentionnés. C'est bien d'écouter le Seigneur parler. Et plusieurs parmi nous, nous avons payé un prix pour être là et nous voulons en bénéficier au maximum. Nous voulons gagner, profiter au maximum. S'il y a quelqu'un à travers nous, auprès de nous qui sent le sommeil, encourageons-nous et nous voulons tous écouter le Seigneur parler. Maintenant, nous allons vers notre frère David pour le message. Amen. Bienvenue, chers étudiants, où que vous soyez. J'ai parcouru les images et centaines d'écrans depuis le Mexique au Canada. Oh, cela m'aurait plu d'être ensemble avec certains, mais je suis dans un pays où nous ne pouvons pas nous rassembler. Il faut mettre le masque, c'est bien. Sauf que c'est pas facile d'avoir le masque lorsqu'on doit libérer le fardeau. Donc, comme vous, je suis dans ma chambre, je suis chez moi, mais nous sommes rassemblés dans le Seigneur. Nous sommes rassemblés dans l'esprit et je suis content de vous voir tous. Je pense qu'à travers le message, durant le message, je vais défiler pour voir vos visages. Cela me donne un avant-goût de ce que le Seigneur dit. Les sept esprits parcourent la terre à la recherche de ceux dont les cœurs sont entièrement pour lui. Donc, je suis très encouragé de voir vos visages. Merci de vous joindre. Je vous témoigne brièvement que c'est au cours d'une formation sur ces mêmes livres. J'étais en deuxième année à l'université. J'ai participé donc à la formation. J'ai eu beaucoup de grâce. Je ne connaissais pratiquement pas grand-chose au sujet du contenu de ce livre, de l'histoire du recouvrement et cette histoire de rebâtir la maison. Et je suis passé par cette formation et ma vie a été transformée. Je me suis donné pour être reconstitué et j'ai ressenti qu'intrinsèquement à moi, j'ai compris enfin ce que veut dire être dans le recouvrement du Seigneur. Alors je me suis joint à tous les frères et à toutes les églises qui prient pour les saints. Alors, avec ceci, nous abordons le message numéro 2. Et je pense que pour cette parole d'ouverture, je dois vous donner un cadre pour l'ensemble de la formation. Le frère doit poster la première diapositive. Ne vous inquiétez pas, le texte semble long. Nous n'allons pas vous embarrasser avec tout cela, mais j'espère que vous pourrez voir la chronologie, le temps et les choses, les événements qui se sont produits. Sans cela, ce serait un peu difficile de saisir la signification spirituelle de ce dont nous parlons. Donc j'espère que vous voyez sur votre écran, vous pouvez même filmer si vous voulez. J'espère que tout le monde le voit depuis où vous vous trouvez, mais j'aimerais lire. Si vous pouvez noter des choses, faites-le, ce serait bien, ça pourrait vous aider. Au début, avant le verset, j'ai 1 Corinthiens 10, 6. Ces choses sont arrivées comme des exemples, c'est-à-dire des types pour nous. Ces choses sont arrivées comme des types pour nous. L'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament est un type complet de l'Église dans le Nouveau Testament. Plusieurs croyants sont d'accord de prime abord, mais leur appréciation est très limitée. Ils savent que la Pâque est un type de Christ. Ils savent que la traversée de la mer est un type de baptême, mais plusieurs ne vont pas au-delà de ce que je viens de dire. La première partie de l'histoire des Israélites est un type. De la même manière, la deuxième partie qui continue jusqu'au livre des histoires est également un type. Et qu'est-ce que ce diagramme nous montre? Nous voyons que, chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'appelle le recouvrement du Seigneur. Le recouvrement n'est pas notre nom. Le recouvrement appartient au Seigneur. Et il y a donc quelque chose dans l'Ancien Testament, un fait historique, un type de cet recouvrement de l'Ancien Testament qui sera accompli, qui deviendra la réalité dans le Nouveau Testament, l'âge du Nouveau Testament, ou dans lequel nous vivons. Cela vient de la souveraineté, de la volonté de Dieu, de son bon plaisir. Et c'est cela qui fait que nous fassions partie de ce recouvrement. C'est vrai que notre salut est la plus grande miséricorde. Mais lorsque nous lisons le livre d'Esdras, lorsque le frère, comme le frère l'a dit, hier, parmi les millions, environ 42 000 ont été choisis pour faire partie de ce recouvrement. Alors, quelle miséricorde! Alors, pour situer les choses, la première date, 606 avant Christ, Nebuchadnezzar a emporté les vases sacrés et les captifs pour 70 années de la captivité à Babylone. Dans l'Ancien Testament, cela se relate dans les livres de Daniel et Jérémie en particulier, et il s'agit de l'Empire babylonien. Je suis un historien, et si vous étudiez l'histoire, la carte de la Bible, vous verrez beaucoup de lumière. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'avec cette première date, 606 avant Christ, avant que Ezra ne soit réveillé, et avant même que le recouvrement ne commence, il y avait certains comme Daniel qui étaient en captivité, qui n'allaient pas participer eux-mêmes au retour. Vous savez ce que ces gens faisaient? Ils priaient. Les gens comme Daniel priaient. Et j'aimerais vous encourager tous en vous disant que les saints prient pour vous. Nous sommes tous ici parce que quelqu'un a prié pour nous. Ce n'est pas une exagération à vous, étudiants de première année. J'aimerais dire qu'on prie pour vous depuis 18 années. Durant toute votre vie, quelqu'un prie pour vous. Voilà la première chose que j'aimerais dire. Ensuite, 538 avant Christ, le roi Cyrus encourage. Oui. Cyrus, c'est ce que nous avons vu hier. Cyrus encourage les premiers captifs à retourner sous la direction de Zorobabel et à rebâtir le temple, comme notre frère nous l'a dit. Le recouvrement a commencé avec le réveil de notre esprit. C'est ce que notre frère nous a dit. C'est remarquable parce que Cyrus ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Il était un Perse. Si vous étudiez l'histoire, c'était quelqu'un d'intéressant, mais dans le livre d'Isaïe et ailleurs, il était quelqu'un qui était un berger pour mener à bien les intérêts de Dieu. Et c'est quelque chose de remarquable. Rendez-vous compte que le roi lui-même décrète et encourage le peuple à partir pour bâtir la maison. C'est un peu comme, on peut dire aujourd'hui dans notre société, le président déclare. Bien sûr, c'est vrai que cela ne peut pas se faire aux États-Unis parce que l'Église est séparée de l'État. Mais si le président pouvait dire que tout le monde aille et soit dans l'Église et soit actif. Je peux utiliser un autre exemple. Vous travaillez quelque part et peut-être votre directeur général dit « Ok, à partir de maintenant, chaque jour, vous avez une heure pour étudier la Bible. » C'est impensable, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'aimerais vous dire. C'est une chose d'avoir un bon environnement qui nous permet d'être encouragés. Et c'est ce que le roi, c'est ce qui s'est passé. Le roi lui-même a dit, allez. Et après, notre roi a dit, nous allons même financer, nous allons payer, financer la reconstruction. Quel merveilleux environnement favorable. Aujourd'hui, nous ne sommes généralement pas dans un environnement approprié pour l'exercice de l'esprit. Et quand je défile les écrans, je vois plusieurs de vos visages. Je vois Anthony. Feng Jong, je ne t'ai jamais rencontré, je ne vous ai jamais rencontré, mais vous êtes là, vous êtes peut-être seul, mais c'est bon, parce que pour apprendre où vous êtes, où tu es, tu dois apprendre à être dans l'esprit, même lorsque l'environnement ne s'y prête pas. C'est ça le véritable exercice. En fait, j'aimerais aussi dire ceci, il serait merveilleux si nous pouvons être ensemble. Mais dans un sens, nous ne nous fions pas trop à cette forme d'excitation extérieure. Mais nous aimons plutôt que vous, où que vous soyez, que ce soit dans votre chambre, dans votre dortoir, dans votre appartement, dans votre bureau, que vous puissiez être en mesure d'exercer votre esprit, d'être encouragé. Parce que c'est là que débute le recouvrement. Alors je parle de cette manière pour vous encourager. Je pensais à ce verset, Ésaïe 64, qui dit... Dans une situation désastreuse, je paraphrase, et il n'y a personne qui invoque ton nom, personne qui s'encourage pour s'attacher à toi. Vivien, je sais que tu es là avec quelqu'un, j'espère que tu vas t'exercer pour t'encourager dans ton esprit, même lorsque tu es seul, à invoquer le nom du Seigneur. J'aimerais aller à la ligne suivante, en fait les prochaines lignes. Mais remarquez qu'en 538, il y a eu un encouragement. Et en 535, la construction du temple a commencé. Le frère Marc nous l'a dit. L'autel a été construit, la fondation également. Mais il y a eu l'opposition pendant 15 ans et le projet a été abandonné. Tout s'est arrêté à cause de l'opposition. Lorsque le peuple est arrivé à Jérusalem, ils avaient la vision, ils savaient ce qu'ils avaient fait. Nous sommes là pour bâtir le temple, ils le savaient, la maison de Dieu. Mais à cause des frustrations de l'ennemi, ils ont commencé à abandonner la vision, à prendre soin, à se soucier d'eux-mêmes et à se construire des maisons. Et quand nous regardons la chronologie, 538-520, vous savez ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël avaient des enfants adolescents. Je sais que ce n'est pas cela que vous pensez maintenant, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes à l'université, vous aimez le Seigneur, vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, vous vous mariez avec le temps. Vous avez un travail, vous avez des enfants. Et puis, tout d'un coup, subitement, vous oubliez pourquoi vous existez. Alors, les enfants d'Israël ont été laissés dans cet état d'oisiveté, d'inertie, d'indifférence. Et en 520, Agé est venu et l'œuvre d'édification a recommencé. Et Agé, et j'aimerais sauter entre. Agé, oui, je ne sais pas bien prononcer ce nom. Mais il a réveillé l'esprit de ceux qui étaient avec lui. Et ce qu'il a fait était différent de ce que Cyrus avait fait. Cyrus, avec les leaders, avait encouragé le peuple à sortir de la captivité. Mais Agé, lui, a encouragé, réveillé le peuple à sortir de sa passivité afin de reprendre l'œuvre de construction. Et ensuite, après 515, nous voyons qu'il y a 550 ans d'écart qui nous amène à Esdras. Et ensuite, 13 ans plus tard, nous avons Néhémie. Le plus gros des messages qui vient parleront d'Esdras et de Néhémie. Mais j'espère que ce que je viens de dire vous permet d'avoir une appréciation et de voir qu'il y a le recouvrement de Dieu sur la terre. Ceci nous donne le contexte. Nous avons besoin du ministère d'Agé. Lorsque le peuple est dans l'inertie. Et avec cela, nous pouvons avoir une idée quand même des messages à venir qui couvriront la période allant de l'encouragement de Cyrus depuis 538 jusqu'à 445 au moment de Néhémie. Cela fait 93 ans. Et ceci nous montre que le recouvrement ne se produit pas d'un seul coup. Cela n'arrive pas de manière subite. Mais cela va d'une étape à une autre et nécessite du temps. Et les frères et sœurs, avec ce contexte, nous pouvons commencer. Merci, chers frères, nous allons aller dans le plan. J'espère que ceci nous a aidé. Vous pourrez retourner dans ce diaporama si vous l'avez filmé. Le titre, la prophétie d'Agé concernant le recouvrement de la construction de la maison de Dieu. J'espère que vous prenez des notes parce que lorsque nous parlons à partir de la parole, non pas à partir de notre parole, mais nous savons qu'elle est riche. Et j'aimerais vous donner autre chose. Il y a trois grands points que nous allons parcourir. Le premier, et c'est le grand thème, nous verrons une nouvelle appréciation, une appréciation fraîche de ce que Dieu fait. L'édification de la maison de Dieu. Nous allons passer quelques minutes, quelques temps pendant ce message. Ensuite, nous irons au second point. Une fois que nous avons vu l'œuvre principale que Dieu a accomplie, nous verrons également la chose principale que l'ennemi fait. Il frustre l'édification de Dieu. Et le dernier point, le grand 2, nous aurons une application de cela à travers le ministère d'Agé. Et notre prière est que le partage soit rafraîchi comme cela l'était en 520 avant Christ, environ 2500 années. Grand 1, nous devons être éclairés. Et je crois que nous le sommes tous. Nous devons être éclairés, complètement saturés par cette pensée. Dans cet univers, Dieu fait beaucoup de choses, c'est ça? Non, n'est-ce pas? Dieu, dans cet univers, ne fait qu'une seule chose. Édifier son habitation éternelle. Si je vous posais la question avant, qu'est-ce que Dieu fait avant ce message? Plusieurs auraient des difficultés à répondre, n'est-ce pas? Nous avons ce verset. Et avant d'ouvrir la Bible, nous allons voir de manière brève. Dans Genèse 28, c'est la première vision dans la Bible. Et la dernière référence, Apocalypse 21, c'est la dernière vision dans la Bible. Et entre les deux, nous avons Matthieu, la parole du Seigneur. Nous avons Éphésiens, le ministère de Paul. Nous avons 1 Pierre, le ministère de Pierre. Et Apocalypse, le ministère de Jean. Donc, tous ces auteurs, entre ces deux visions, sont focalisés sur cette même chose, l'édification de l'habitation éternelle de Dieu. Parcourons de manière brève ces versets. Dans Genèse, je n'ai pas le temps de lire complètement, mais il y a des éléments clés que j'ai soulignés. Jacob s'étonnait. Il se demandait, il avait peut-être déjà 70 ans, il voyageait, il errait, il allait de Beersheba vers une autre destination, environ 500 milles de distance. C'était un long voyage. Il s'est arrêté à un lieu où il a eu un songe particulier. Comme je l'ai dit, c'est la première vision de la Bible.
Jacob s'est levé de son sommeil et il a dit, assurément, Jéhovah est dans ce lieu et je ne le savais pas. Il avait peur et il a dit, oh, que ce lieu est merveilleux. Je vois la maison des frères de Sacramento. Mes parents sont nés à Sacramento. Ils ont connu la vie d'église dans cette ville. La maison des frères de Sacramento, vous savez, il est merveilleux d'être dans la vie d'église à Sacramento. Que ce lieu est merveilleux, ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et c'est la porte des cieux. Jacob s'est relevé de son sommeil, il a pris la pierre dont il avait fait son oreiller, il a érigé en stèle, il a versé de l'huile sur cette pierre. L'huile sur cette pierre, dans ce dernier verset, il est dit qu'il a appelé ce lieu, la maison, il a appelé cela Bethel, qui est la maison de Dieu. C'est une image, mais c'est une image de l'édifice de Dieu. L'huile qui est versée sur cette stèle, c'est Dieu qui est mélangé avec l'homme. Vous savez ce que c'est que l'édifice de Dieu? Vous devez penser à cette image. C'est le mélange de Dieu et de l'homme. C'est le lieu où se trouve la présence de Dieu. Et c'est un lieu redoutable. Et cette première vision, la première vision dans la Bible, et c'est cette vision qui a été donné à quelqu'un qui errait. Il n'avait que 17 ans. Je prie dans mon cœur. Je prie comme plusieurs pour les étudiants de première année. Peut-être qu'il y en a en Californie du Nord qui nous regardent maintenant et qui vont prendre ce voyage de 500 000 de distance vers la Californie du Nord, du Sud, pardon, le mois prochain. Peut-être parce qu'ils sont malades d'être chez eux. Oui, qu'il erre. Je prie que vous puissiez avoir cette même vision de Bethel, la maison de Dieu. Ok, à cause du temps, allons au verset suivant. Je vais maintenant à Apocalypse 21, 2 à 3. La dernière vision dans la Bible. Et je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une mariée parée pour son époux. Ces mots soulignés sont importants. La cité céleste, sainte, la cité a été édifiée. Cette cité est l'épouse. C'est une personne. C'est une personne corporative, organique. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il s'établira comme tabernacle sur eux, avec eux, et ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et j'ai également Hébreux 11, 10 qui n'est pas sur le plan. Hébreux 11, 10 parle d'Abraham qui habitait dans une tente. Et même cet homme qui habitait dans une tente, celui-là qui a été appelé par Dieu, s'est consacré à Dieu. Il attendait ardemment la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. César, tu n'as pas besoin de répondre, n'est-ce pas? Je te vois sur mon écran. Je ne te connais pas, mais César, est-ce que tu sais que Dieu est un architecte? Donc Dieu est un architecte et un constructeur. Et il a choisi depuis l'éternité passée que toi, César, tu ferais partie de cet énorme édifice de Dieu. Et la Bible s'achève avec cette cité qui vient du ciel, qui descend des cieux, avec une nouvelle terre. C'est merveilleux. Alors, nous allons au prochain verset. Verset Matthieu 16. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il s'adresse à Pierre. Et Pierre a reçu cette merveilleuse révélation. Pierre a répondu en disant, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » C'est l'une des grandes révélations dans le Nouveau Testament. Une révélation céleste donnée par le Père. Et vous vous dites certainement, le Seigneur devait être content, c'est vrai, et je pense qu'il l'était. C'était la le point essentiel, la plus grande révélation, cet homme Jésus, qui est-il? Pierre a eu la révélation, tu es le Christ. Et nous disons, c'est bon, c'est l'important. C'est vrai, après cela, cependant, le Seigneur a dit, Pierre, je t'ai dit, tu es Pierre. C'est-à-dire, une pierre, vraiment. Et sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, à nouveau, le Seigneur a donné cette révélation. Mais le Seigneur dit toujours, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas que tu saches qui je suis. Tu dois savoir qui tu es et le dessein pour lequel tu as été appelé. Et le dessein de ton salut, c'est que tu deviennes une partie de l'église que je suis en train d'édifier. Alors, à cause du temps, je dois avancer. Nous pouvons ôter cette diapositive. Je vais lire les points A, 1 et 2. L'édifice de Dieu est le désir de son cœur et le but de son salut. Dieu désire une demeure sur terre pour son expression, une demeure constituée avec Christ et selon Christ. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui, que ce soit à travers la prédication de l'Évangile, l'édification des saints, l'établissement des églises, fait partie de son œuvre d'édification. Maintenant, je n'ai pas le temps pour développer davantage, mais il y a des éléments clés ici que nous trouvons dans Exode, dans Éphésiens, que j'aimerais, sur lesquels j'aimerais insister. L'histoire des autres, quel est le point dans Exode? Le point, c'est l'essentiel, c'est l'édifice de Dieu. C'est le désir du cœur de Dieu, c'est son but dans Exode. Si vous parcourez ce livre d'Exode, l'impression semble que Dieu veut sortir le peuple d'Égypte, l'amener à traverser la mer Rouge. En fait, à chaque étape, tout cela a un but précis. Donc, dans Exode 25, 8, Jéhovah dit qu'il fasse un sanctuaire pour moi, qu'il me construise un sentier afin que j'y habite. Toute autre chose était pour nous. Toutes les autres choses étaient pour notre bénéfice, mais tout cela se fait afin que nous puissions satisfaire ce moi en majuscule, qu'il puisse avoir un sanctuaire, une demeure mutuelle. Et j'aimerais m'attarder sur Exode parce que je suis beaucoup familier à cette histoire. Exode chapitre 1, pensez-y, qu'est-ce que les enfants d'Israël faisaient? Ils construisaient les cités du trésor de Pharaon. En Égypte, les mains étaient pleines d'argile, des briques du mortier. Et à la fin, au chapitre 40, les mains étaient pleines de matériaux précieux pour l'édifice de Dieu. Et donc, voilà l'arc de Dieu, du salut de Dieu, l'arche du salut de Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et nous avons ce verset dans Éphésiens 2. Je n'ai pas le temps d'entrer, mais c'est une miniature du livre d'Exode. Éphésiens 2, verset 1, commence en disant que nous sommes tous morts dans nos offenses et nos péchés. Mais à la fin d'Éphésiens 2, peut-être le frère peut afficher cette diapositive. Au début, Éphésiens 2, 1, c'est comme dans Exode, vous êtes tous morts. Mais à la fin d'Éphésiens 2, il est dit en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur. En qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Ok. Maintenant, nous avons établi la base. Vous pouvez ôter la diapositive. Nous allons faire la transition. Nous avons vu l'édifice de Dieu, de la maison de Dieu. Maintenant, nous devons voir comment l'ennemi s'oppose à cette édification. Si c'est la seule chose que Dieu fait, soyez sûr que l'ennemi fait tout ce qu'il peut. J'aimerais vous demander, si vous êtes l'ennemi, quelle serait votre stratégie pour frustrer cette œuvre? Vous pouvez le faire de manière directe, avec des mauvaises paroles, de l'opposition. C'est ce qui s'est passé dans Esdras. Lisez Esdras, vous verrez. Et cela a découragé, empêché l'édification. Mais l'ennemi s'oppose aussi de manière très sophistiquée et très subtile. Si votre but est de stopper l'édification, vous pouvez le faire de manière directe ou vous pouvez aussi distraire les bâtisseurs. Vous pouvez les occuper avec autre chose. Peut-être des choses qui n'ont pas l'air de créer l'opposition. C'est très subtil. C'est très subtil. Et avec cela, à cause du temps, nous n'avons pas tellement du temps pour entrer dans la deuxième phase du fardeau. J'aimerais lire le point B. Le désir de Dieu est que nous lui construisions une demeure sur la terre. Ce désir ne peut s'accomplir que si nous avons été délivrés du monde et que nous ne possédons rien d'autre que Dieu lui-même. Le monde est opposé à l'édification de Dieu et l'œuvre d'édification de Dieu est opposée au monde. Afin d'être la demeure de Dieu, nous devons connaître le monde de manière approfondie et l'élément du monde doit être expulsé de notre être. Je vois vos visages sur mon écran et je vous parle. J'aimerais vous parler face à face. C'est une parole qui est un défi pour nous, pour vous les étudiants. J'aimerais retourner à cette image dans Exode et j'aimerais m'accentuer là-dessus. Qu'est-ce que vous avez en main aujourd'hui? Les briques ou le mortier? Est-ce que vous construisez les cités pour Pharaon? Ou est-ce que vous construisez avec des matériaux précieux pour la maison de Dieu? Vous ne pouvez que faire l'une de ces choses. Vous ne pouvez pas avoir une main remplie de briques et de pierres et une autre remplie de matériaux précieux. C'est pas comme ça que le travail spirituel marche. Vous pensez, je peux peut-être faire les deux à la fois. Mais la parole du Seigneur dans Matthieu 6, 24 dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Alors nous avons ce défi devant nous et nous sommes dans le monde. À ce moment, certains sont retournés, ils étaient frustrés, ils devaient gagner leur vie. Et j'anticipe vos questions. Est-ce qu'on ne doit plus travailler? Est-ce que je suis simplement comme un clochard qui doit aller de réunion en réunion sans rien faire? Non, non, non. Dieu a ordonné que tu dois, vous devez travailler, vous devez travailler. Vous devez être une personne adéquate, prendre soin de votre famille, mais intrinsèquement, frères et sœurs, qui est-ce que vous servez? Qui est votre maître? Quelle est votre ambition? Le mot ambition est un mot du Nouveau Testament. Paul, dans 2 Corinthiens 5, 9, dit qu'il a l'ambition. Il désire de plaire au Seigneur. Et je ne sais pas où vous vous trouvez. Peut-être avec les autres réunions, vous pourrez ajouter votre localité afin qu'on puisse voir dans quelle église vous vous trouvez. Et je sais, j'ai confiance. Et je vois d'ailleurs les saints à Fort Collins. Loué soit le Seigneur pour l'église à Fort Collins. Et loué soit le Seigneur pour les saints qui sont vos modèles dans cette église, dans la vie d'église. Ils suscitent des familles. Ils sont responsables dans la société. Ils ont leurs emplois. Mais ils ne sont pas préoccupés par leur profil LinkedIn. Leur préoccupation est de prendre soin de vous édifier. Et je sais, cette parole pénètre. L'élément du monde doit être éliminé hors de notre être si vous voulez être faire partie de la maison de Dieu. Si je vous demandais maintenant de définir ce que c'est que le monde, ne le faites pas dans la partie chat, cela veut détruire. Mais si je vous pose la question, la définition que vous avez en tant qu'un étudiant, j'aimerais vous dire qu'elle serait incomplète. Parce que pendant que vous grandissez, vous devenez mature, les choses que vous n'avez jamais envisagées comme étant du monde deviendront le monde. Les enfants, vos merveilleux enfants, peuvent devenir le monde. Une ligue de football qui apparemment n'a rien de mauvais peut devenir le monde. Et cela touche à beaucoup de choses. Nous avons besoin de la lumière, du traitement du Seigneur. Et je m'adresse à vous, étudiants. Certains parmi vous sont plus âgés. Certains sont en stage cet été. Et vous pensez à votre croissance, votre avenir, c'est normal, c'est approprié. C'est un bon témoignage d'être un bon étudiant, d'être un bon professionnel. Mais je dois être fidèle. Et vous dire également que avoir le travail, c'est une chose, une occupation, mais avoir une carrière, c'est une autre chose, poursuivre une carrière. Une carrière. Et permettez-moi de développer pour être pratique et que le Seigneur me couvre. Cet été, actuellement, cela fait 20 années que je travaille. Je n'ai jamais cru que je travaillerais pendant 20 ans dans ce travail, dans le travail que j'ai. Et j'ai eu une série de travaux, d'emplois, j'en ai, mais je dois rendre témoignage devant le Seigneur, je ne poursuis pas une carrière. Si vous regardez à la définition de ce mot, il s'agit d'une poursuite de réalisation progressive dans votre vie professionnelle. Nous ne sommes pas là pour édifier, rechercher une carrière, pour avancer en Égypte. Ça, c'est Exode 1. Nos mains ne sont pas remplies de briques et de mortier. Nous sommes des personnes appropriées. Nous avons besoin de l'éducation, de développer sur le sens professionnel. Mais nous devons porter le témoignage que ce que nous faisons est dans le Seigneur. Et c'est pour le Seigneur. Avec le Seigneur, au Seigneur, je ne veux pas me perdre dans ces choses. Et je suis comme vous. Nous avons tous notre travail. Je suis comme vous. Plusieurs parmi vous travaillent, n'est-ce pas? Et j'aimerais partager cette histoire. Il n'y a pas longtemps, j'ai été recruté. Vous serez recruté à un moment donné également. C'était un entrepreneur charismatique. Son but était de faire beaucoup d'argent. Il en avait déjà beaucoup. Mais il m'a sélectionné pour que je joigne son entreprise. Et j'étais ouvert. Et j'ai pensé, logiquement, cela a du sens. Et je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, j'étais assis avec lui, à la fin d'un repas, nous essayons de conclure le contrat et il m'a regardé, il était charismatique avec ses yeux. Et cet entrepreneur, il m'a regardé, nous étions tout près l'un de l'autre. Il m'a dit, je n'ai qu'une seule question pour toi, David, une seule question. Es-tu prêt à travailler dur, plus que tu n'as jamais fait de toute ta vie? Et c'était à ce moment que j'ai su que je ne pouvais pas prendre ce travail. J'ai refusé. Une semaine plus tard, et je leur ai dit, non, je ne suis pas prêt à travailler dur, plus que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Vous ne pouvez servir qu'un seul maître. Ce que j'ai dit, ce n'est qu'une parole de préparation, une inoculation, mais à cause du temps, je dois avancer un peu plus rapidement. Le point C, en ce qui concerne l'édification de la demeure de Dieu, un conflit, un combat acharné se déroule entre Dieu et son ennemi. L'ennemi n'aime pas voir l'édification de la demeure de Dieu avancer d'une bonne manière, nous en avons parlé. Voilà pourquoi il fera tout ce qu'il peut pour interrompre, entraver, frustrer, attaquer et détruire. Le but de toute attaque, opposition et mauvaise parole est d'entraver l'édification de la maison de Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Le dernier point sur ce grand 1, le 2, je souhaite avoir plus de temps. Être édifié avec d'autres croyants est l'exigence suprême et la plus élevée du Seigneur pour ses chercheurs fidèles selon l'unité divine de la Trinité divine. Wow! Si vous voyez ceci, que la seule chose que Dieu fait, c'est édifier sa demeure éternelle, vous verrez que l'exigence suprême est que vous devez être édifié, une personne qui doit être édifiée. Voilà l'exigence la plus suprême. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un de spirituel qui peut prier, qui peut beaucoup prier, ou la personne qui est le plus constituée avec la vérité. Mais non, il faut être quelqu'un qui peut être édifié. Je pense, en regardant l'écran, je vois certains parmi nous-mêmes. Lorsque vous pouvez être à l'université, et subitement, un emploi vous est proposé, et finalement, la question peut être, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de finir l'école? Je peux travailler. Je peux commencer à me faire de l'argent. J'ai partagé avec certains. Et que ferez-vous? Que feriez-vous, Tim? Que feriez-vous, Pearl? Que feriez-vous, Sarah? Si vous êtes à l'université et vous avez finalement cette question, je peux commencer mon année académique ou je peux commencer à travailler. Même à l'université, vous pouvez avoir un emploi déjà. Juste à l'entrée, vous pouvez commencer à faire une analyse de retour sur investissement, une analyse de bénéfices. Et qu'en est-il de l'analyse d'édification? Mais je sais, certains, et je pense que même actuellement, certains ont cette opportunité et ils sont en train de réfléchir. Pourquoi je suis ici? Pourquoi suis-je dans l'état de San Diego? Est-ce juste une coïncidence que j'ai été accepté ou est-ce la main souveraine de Dieu qui vous y a placé pour l'édification, pour l'analyse d'édification? J'ai été placé pour être édifié avec mes frères et sœurs à San Diego et faire partie du recouvrement de Dieu dans l'église à San Diego. Et lorsque vous avez cette analyse, l'université n'est plus un tremplin, mais vous vous rendez compte que Dieu avait l'intention que vous deveniez une pierre pour l'édifice et que vous avez été choisi pour l'édifice. Nous allons maintenant au grand 2. J'ai déjà présenté le contenu d'AG. Rappelez-vous, 15 ans d'abandon et de l'opposition directe de l'ennemi, de la distraction subtile. Et après cela, quelques-uns avaient même oublié la raison, leur raison d'existence. Alors le Seigneur a suscité AG, Zacharie, afin de fortifier le peuple, afin qu'ils reviennent pour reprendre le travail. Le point A, les captifs. Les captifs qui étaient rentrés au pays étaient égoïstes et négligents, et négligeaient Dieu, ils prenaient soin de leur maison, mais pas de la maison de Jéhovah. Nous avons le verset, Éphésiens, ok, AG. Nous sommes nous sommes au dernier tournage de la réunion, et je crois que j'aurai libéré mon fardeau après ceci. J'espère que vous avez lu le livre d'AG. Il n'y a que deux chapitres. Si vous ne l'avez pas lu ce soir, vous le ferez demain matin. Cette parole est puissante et elle pénètre. Ainsi parle l'Éternel de Jéhovah des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de Jéhovah. Je lis dans la version 8 secondes. Ça, c'est ce que les gens disaient. Le temps n'est pas venu. Et la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots: Est-ce le temps pour vous? Est-ce le temps pour vous, pour vous-même, d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel maintenant, considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage est tombé dans un sac percé. Vous recherchez beaucoup, mais vous ne trouvez que peu. Verset 9 maintenant. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous devez lire ceci devant le Seigneur. Mais je prends la conduite pour recevoir ce défi. Et être convaincu par cette parole. Le peuple dit au verset 2, le temps n'est pas venu. La situation ici, et cela est dans notre cœur, nous devons être honnêtes. Nous ressentons peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps maintenant. Maintenant, c'est mon temps. Non, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le temps n'est pas encore venu. Nous pouvons ôter la diapositive. J'aimerais m'appesantir sur certaines de ces paroles. Chers frères et sœurs, J'aimerais poser quelques questions. Si nous disons que le temps n'est pas encore venu, quand donc le temps viendra-t-il? Si le temps n'est pas encore venu, quand viendra-t-il? En fait, le temps est venu. Le temps était venu. Les 70 années de la captivité étaient finies, selon la prophétie. Cyrus avait dit, allez et baptisez votre héritage, votre foi, vos ancêtres. Toute leur espérance concerne cet édifice. C'est le grand moment. Mais nous disons, le temps n'est pas encore venu. Alors, je n'ai pas de réponse à cette question, mais je me sens tout simplement convaincu par le Seigneur. Il me demande, lorsque j'avais votre âge, lorsque j'allais à l'université, je disais, ah, je n'ai pas du temps pour mon témoignage, j'ai du temps maintenant pour moi-même, pour mon agenda. Et je me disais, certainement, le Seigneur ferait quelque chose pour tourner mon cœur vers le Seigneur, afin que je devienne sérieux envers lui. Mais je suis allé à l'université en première année, à mon temps. Si nous voulons être honnêtes, nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous voulons vraiment que le temps du Seigneur vienne, que ce soit le temps du Seigneur? Est-ce que vous me suivez, vous m'écoutez? Voulons-nous vraiment que ce soit le temps du Seigneur? Nous voulons simplement avoir notre temps, n'est-ce pas? Mais le Seigneur pose la question. Il dit, c'est pas mon temps, mais c'est toujours vous, c'est votre temps. C'est votre temps de courir dans vos maisons. Vos belles maisons. Mais vous faites toutes ces choses. Vous avez des vêtements en abondance. Vous n'êtes pas satisfait. Vous mangez, vous buvez, vous n'êtes pas satisfait. Vous travaillez et vous n'êtes toujours pas satisfait. Cette parole nous montre que même dans notre situation, tout ce que nous vivons est lié à notre bien-être. Même notre bien-être est lié à l'édifice de Dieu. Notre travail, notre famille, nos possessions, tout ce que nous avons est lié à l'édifice de la maison, l'édification de la maison. Et quand nous oublions cette édification de la maison de Dieu, nous, notre priorité est erronée. Maintenant, j'ai un fardeau particulier qui va permettre certainement de finir ce message. Et je m'adresse aux étudiants, je le sais. J'aimerais vous présenter le secret pour votre voyage en tant que jeune adulte, en tant qu'adolescent, pour passer, traverser ces années à l'université jusqu'à atteindre votre vie professionnelle. C'est ce que nous voyons dans le petit 2. Concernant le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu, nous ne pouvons pas être neutres. Nous devons être absolus, soit en prenant soin de nos maisons d'abord, soit en prenant soin de la maison du Seigneur d'abord. On va à nouveau afficher la diapositive. Matthieu 6, je l'ai déjà lu, la première partie du verset 33. Lisons cela ensemble, s'il vous plaît. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci. Quelle est la clé ici? Premièrement, d'abord. Cherchez d'abord. Concernant le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu, qu'est-ce qui vient en premier? Votre maison. Et maison ici, c'est un terme tout inclusif qui concerne tout ce qui nous est lié à nos affaires. Ou alors, est-ce la maison de Dieu d'abord? Et la parole de Dieu nous dit, et c'est une parole qui s'adresse à moi, c'est un secret pour moi, c'est un secret. C'est notre véritable boussole. C'est notre véritable étoile. Lorsque nous devons prendre une décision cruciale, il ne s'agit pas simplement de savoir est-ce que je dois prendre tel emploi ou tel autre. Non. apaiser le pour et le contre, non, ou bien j'ai beaucoup partagé avec des étudiants, vous savez, parmi ceux de votre génération, certains sont, il y a des moments où vous devez prendre des décisions et vous avez des difficultés à trouver l'équilibre. Mais il est très facile lorsque vous savez, vous résolvez la première question, et c'est quoi? Chercher d'abord son royaume. Lorsque ce problème est résolu, tous les autres deviennent simples. Sans cela, ça devient complexe. Tout devient comme une équation mathématique avec beaucoup de défis très difficiles et vous n'êtes même pas sûr, vous ne savez même pas où commencer. Mais il y a un ordre divin des opérations et la première chose dans cet ordre, c'est quoi? C'est son royaume. D'abord, lorsque vous avez déjà résolu cela, toutes les autres choses s'arrangent d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Je ne pense pas que Dieu se soucie si vous travaillez à Adobe ou à Oracle ou chez Apple ou à Facebook ou si vous vivez ici ou là-bas. Mais ce qu'il veut, c'est ce qui vient en premier pour vous. Qu'est-ce qui vient en premier pour vous? Et si vous avez ce qui vient en premier, toutes les autres choses vont être bien réglées. Dernier point. Pour le recouvrement de l'édification de la maison de Dieu, les élus de Dieu furent stimulés dans leur esprit et vinrent travailler dans la maison de Jéhovah. En réponse à la charge donnée par Jéhovah, nous devons être tous occupés par le Seigneur Jésus à prêcher l'évangile, à nourrir les nouveaux croyants et à prendre soin des autres pour l'édification de la maison du Seigneur, l'Église comme le corps de Christ. Dernier diapositive, et je m'arrêterai ici pour cette soirée, passer la diapositive. Agé de nouveau, verset 7. Le Seigneur dit, considérez attentivement vos voies. Vous devez prier sur ce verset. Ensuite, voici la parole. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit Jéhovah. Allez à la montagne, ramenez du bois. Voilà où nous nous arrêtons. Nous sommes stimulé, nous allons sur la montagne et je peux appliquer cela à vous. La grande montagne ici, c'est quoi? C'est le campus universitaire avec beaucoup de bois, beaucoup de timbres. Monter et nous avons ce point, prêcher l'évangile, nourrir les nouveaux croyants. Tout cela, c'est le matériel. Mon fardeau ce soir est d'appliquer cela. C'est un peu différent. Vous savez ce que cela veut dire? Parler sur le sens, en termes bibliques, aller sur la montagne. Cela veut dire rencontrer Dieu personnellement. Cela veut dire sortir de notre routine, de nos habitudes, de rompre avec ce que nous avons l'habitude de faire et aller sur la montagne comme Moïse, notre modèle dans Exode 24 et 25. Aller être avec Dieu personnellement dans la communion. Et lorsque vous y êtes, vous savez ce qui se passe, vous êtes infusé avec une vision, un modèle de l'édifice de Dieu. Et après cela, dans le cas des autres, il y a l'offrande par élévation de tous ces matériaux précieux. Et je vois ces 300 profils sur l'écran, ce sont des matériaux précieux. Notre fardeau n'est pas de vous stimuler extérieurement, mais nous voulons que vous allez sur la montagne. Et que vous ayez cette communion avec Dieu. Que vous soyez éclairé, illuminé, saturé par Dieu. Et que vous sachiez que Dieu fait une chose. Et que vous vous offriez d'abord vous-même en tant que le précieux matériel pour l'édification de Dieu, de la maison de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que votre temps et en tant que jeune. 4 années de la vie d'une jeune personne, c'est extrêmement précieux. 2 années dans une vie de quelqu'un qui vient de sortir de l'université, c'est précieux. Ne voulez-vous pas donner au Seigneur les choses les plus précieuses? Allez sur la montagne, passez du temps. Et avec cela, mon fardeau est libéré. Et en conclusion, 3 phrases. Et si vous avez raté, au moins comprenez ces 3 phrases. Maintenant, le moment est venu. Maintenant, c'est le moment de vous donner pour l'édification et où que Dieu vous ait placé. Vos années à l'université sont pour l'édification. Deuxièmement, choisissez chercher premièrement son royaume. C'est ça notre compas, c'est ça notre boussole. C'est ça notre boussole. Notre compas spirituel, boussole spirituelle doit être fixée sur Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Troisième point, allez sur la montagne, passez du temps avec le Seigneur, soyez consacrés, donnez-vous comme une offrande au Seigneur. Merci, chers apprenants, nous continuerons à prier pour vous. Et avec cela, je passe la parole au frère Angel pour des instructions.